France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué, celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, philosophe, a choisi d'évoquer un texte dont l'auteur vous est forcément connu pour ses aventures d'Alice au pays des merveilles. Mais cette fois-ci, pas d'Alice, mais un personnage tout aussi mystérieux appelé le Snark. Pas de roman, mais un long poème avec tout autant de non-sens et tout autant de mots valises ou de mots porte-manteau.
Sans doute, il existait avant, je ne dirais pas moi, mais mon temps, des mystères dans le langage, il y en a toujours eu. Et j'insisterai par exemple sur l'un d'eux, celui de l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll, et de l'invention qu'il a faite des mots que, suivant comment on traduit, on appelle mots porte-manteau ou mots valise. Dans la préface de La chasse au Snark, que j'ai traduite il y a de cela 40 ans, il parle de ces mots qui sont, comme il dit, du système de Humpty Dumpty. Deux significations accrochées à un mot comme un porte-manteau. Ainsi, dit-il, prenez les deux mots fumant et furieux. Figurez-vous que vous allez prononcer les deux mots, mais laissez dans le vague celui que vous direz le premier. Bon, ouvrez la bouche et parlez. Si vos pensées inclinent si peu que ce soit du côté de fumant, vous direz fumant furieux. Si elles tournent, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu du côté de furieux, vous direz furieux fumant. Mais si vous avez ce don les plus rares en esprit parfaitement équilibré, vous direz fumieux.
Bonjour Roger Paul-Droit.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Alors vous dites quoi vous? Fumant furieux, furieux fumant ou fumieux?
J'aurais tendance à dire fumieux, mais c'est
vrai,
tout ça est...
Donc vous avez l'esprit très équilibré.
Tout ça est personnel. Mais effectivement, je crois que c'était la voix d'Aragon.
Tout à fait, vous l'avez bien reconnu.
Qui a
de
été
63.
En
ça a été diffusé en 1963, mais c'était 10 ans après sa mort.
Voilà, et il a été, en 1929, au moment où il était surréaliste, le premier traducteur en français de La chasse au Snark de Lewis Carroll. Et Snark, c'est un mot valise. C'est fait en anglais de snake, le serpent, et de shark, le requin. Et c'est, s'il fallait traduire, ce serait un cerquin, si vous voulez.
Un cerquin, c'est pas mal. Mais Snark, c'est manière. Mieux de l'avoir laissé, non?
Oui, évidemment, c'est mieux, parce que ça a quelque chose. Et c'est très, très difficile. C'est pas par hasard que ce soit des poètes qui ont tenté de traduire Lewis Carroll. Il y a eu Aragon en premier pour La chasse au Snark. Un autre traducteur du même texte, c'est Jacques Roubaud. Voilà, grand poète et également philosophe. Et puis, il y a eu, je crois que c'est probablement la moins mauvaise des traductions, ou la plus réussie, celle d'Henri Parisot.
Que vous avez choisi.
Que j'ai choisi parce que, alors, il est réfléchi lui-même beaucoup, très longuement, sur les difficultés, les pièges de la traduction, si vous voulez, toute traduction est une trahison, c'est un vieux proverbe italien. Mais, en même temps, il y a une vraie particularité parce que Lewis Carroll est un inventeur de mots. Et de mots qui combinent, comme Frumieux, toute une série de significations.
Vous avez même surcombiné, parce que c'est Fumieux.
C'est Fumieux,
vous
voilà,
avez même
je
surcombiné. Vous surcombinez. donc, Roger Paul-Droit, je vous présente. Vous êtes philosophe, écrivain, vous avez été directeur au CNRS, vous écrivez pour Le Monde. Entre autres, on vous doit une cinquantaine d'ouvrages de vous. Récemment, on a pu lire Alice au pays des idées, paru aux éditions Albin Michel. On comprend donc avec ce titre votre attachement à Lewis Carroll. Mais néanmoins, donc vous l'avez dit, on va parler de ce texte de Lewis Carroll qui s'appelle « La chasse au Snark ». Pourquoi n'avoir pas choisi Alice au pays des merveilles ?
Parce que tout le monde connaît, d'abord.
Ah, vous avez un esprit de distinction.
Oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, je préfère faire découvrir des choses que de parler de celles que tout le monde connaît déjà. Mais surtout parce que dans ce roman que j'ai publié en début de cette année, Alice au pays des idées, je rends un hommage, mais décalé, à Lewis Carroll. Mon Alice n'est plus une petite fille du 19e siècle, c'est une jeune fille d'aujourd'hui qui est éco-anxieuse, qui a peur de la désagrégation du monde, qui dialogue avec une quarantaine de philosophes à travers l'histoire. Bon. Et en fait, il me semble que le plus caractéristique, puis ça a été ma première lecture d'adolescent de Lewis Carroll, c'est La chasse au Snark, parce que c'est un texte court, un poème long comme poème, mais une vingtaine de pages, pas plus.
Ah oui, ça se lit. Je sais pas, moi je l'ai découvert cette semaine grâce à vous, l'ai lu en un quart d'heure, 20 minutes.
Voilà, et avec, à l'intérieur de ces 20 minutes ou de ces 20 pages, quelque chose qui est un univers tout à fait extraordinaire, que j'aurais tendance, on va y entrer bien sûr, mais à caractériser tout de suite comme un univers du entre. C'est entre le sens et le non-sens. C'est entre les mots, c'est entre l'ignorance et le savoir, c'est entre la présence et la disparition. Voilà, mais il faut peut-être évidemment maintenant en dire un peu plus sur la chose elle-même.
Alors, on ne va pas tout de suite écouter un extrait de La chasse au Snark, parce que, avant tout, j'aimerais savoir quel est le premier souvenir que vous gardez de ce texte. Quand l'avez-vous découvert? Quand l'avez-vous lu pour la première fois pour qu'aujourd'hui, vous nous parliez de ce texte-là?
J'avais 16 ans, j'étais en terminale, et c'est notre prof...
Donc vous aviez de l'avance, vous aviez sauté une classe, 16 ans en terminale.
J'avais sauté,
17-18 ans.
Si ma mémoire est bonne, j'ai sauté le cours moyen première année, ce qui fait dire à ma sœur que je ne sais pas faire des règles de 3 depuis toute ma vie, etc. Bon, j'ai donc des lacunes graves. Tout ce qu'on apprend,
terrible.
Tout ce qu'on apprend en CM1, je le sais pas. Voilà. Mais à part ça,
À part la règle de 3,
donc j'étais en terminale, j'avais 16 ans, c'était à Paris, et on avait comme prof, un jeune normalien qui était à sa première année d'enseignement, qui s'appelait Michel Pécheux, il est disparu depuis, mais qui était à l'époque un élève d'Althusser et un lecteur de tas de choses, évidemment, notamment de Lacan. Après, j'ai été, quand j'étais moi-même Normal Sup à Saint-Cloud, dans la bande de ce qu'on appelait les Lacanos althusseriens, vous voyez.
Étiez dans cette bande-là?
J'étais là-dedans, oui, bien sûr. On croyait que le marxisme et la psychanalyse étaient les deux grandes vérités du monde.
On est à quelle époque, à ce moment-là, quand vous êtes lacano-marxiste, Roger Paul Droit?
Oh, on est dans les années 70. Mais ma terminale, c'était 65, je suis né en 49, je suis un vieux monsieur, j'ai 76 ans, voilà.
Vous avez décliné toute votre...
Voilà, vous savez tout. Michel Pécheux nous a parlé de La chasse au Snark, avec ce paradoxe logique, extraordinaire, c'est que finalement, on ne sait pas ce qu'est un Snark.
Oui.
On part à sa recherche, avec une terreur, et la seule chose qui anime finalement les personnages et les effraie, c'est qu'ils désirent, puisqu'ils le chassent, tomber sur un Snark. Ils ont quelques vagues signes ou indices pour le reconnaître, mais la terreur, c'est que certains Snarks sont des Boujoum. Et que si l'on rencontre, chassant le Snark, un Boujoum, alors on disparaît.
C'est ça qui est fou, en fait. C'est que La chasse au Snark, c'est l'histoire d'un équipage qui part en quête d'un Snark dont on ne connaît pas l'identité, qui est impossible à caractériser. Et en même temps, le risque, c'est de tomber sur le Boujoum qui peut faire disparaître. C'est vraiment un texte de la disparition. L'absence d'un monstre, d'une chimère que l'on recherche, et la possibilité d'un autre monstre qui vous fait disparaître à son tour. Moi, je l'ai lu comme ça, c'est-à-dire la disparition.
Mais il me semble qu'on pourrait se dire c'est la philosophie.
Ah bon? La philosophie, c'est la disparition. Dites-moi pourquoi.
Mais parce que chercher quelque chose dont on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est déjà le problème de Platon, c'est le Ménon, c'est la philosophie. On part en quête, effectivement, de quelque chose qu'on exige trouver, qu'on espère trouver, qu'on désire attraper. Il y a tout ce thème de la chasse, il est aussi dans le sophisme, la traque, la chasse au semblant, la chasse à la vérité. Enfin, ce thème de la chasse, c'est un vieux thème
philosophique. Oui, plus que la quête, en fait. Hein, plus, voilà, traquer, voilà. C'est plus...
Traquer, ouais. Le capitaine et les passagers du bateau partent dans la chasse au snark pour une traque, effectivement. Mais il y a toujours aussi, et je crois que c'est un grand thème philosophique, quelque chose qui fait... que dans ce qu'on cherche, il peut y avoir un piège et qu'on y disparaît. Combien de
chercheurs perdus dans leur recherche.
Voilà, ou de philosophes perdus dans leur propre système. Ou, vous voyez, ce thème de la fascination pour une recherche dont qu'on désire, mais dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit finalement. Sinon, on ne chercherait pas si on savait déjà. Enfin, toutes ces questions sont... Des en filigrane, en permanence, à la fois dans la chasse au snark et dans toute l'histoire de la philosophie. Alors, bien sûr, je ne veux pas faire de ce poème une clé qui ouvrirait toutes les portes.
Elle a ouvert celle-ci pour vous.
Mais pour moi, elle a ouvert celle-ci. En tout cas, elle m'a montré qu'il y avait, à l'intérieur même de la logique, des paradoxes, qu'il y avait à l'intérieur même du non-sens apparent des choses sensées et vives et incitatives. Et ça, d'une certaine manière, indépendamment de la première lecture que j'en ai faite, qui était joyeuse, éblouie, etc., je pense que ça rejoint des thèmes qui n'ont cessé de me faire travailler et de m'inciter à continuer.
C'est ce que j'allais vous dire, Roger Pellerois, c'est que là, vous avez 76 ans, c'est facile, d'une certaine manière, pour vous, de vous dire ce qui vous a marqué dans ce texte. Mais quand vous avez 16 ans, présenté par votre professeur Michel Pécheux, quand il l'a présenté, est-ce qu'il a employé ces termes
Non, pas du tout. C'est moi qui vous raconte que ça de la philosophie. Il avait pris, si ma mémoire est bonne...
Pourquoi il avait choisi ce texte c'était dans quel cours, sur quoi, pour parler
ça, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas, vous savez, c'est quand même...
C'était quand même en 65, c'est vrai.
C'est quand même, il y a plus de 60 ans. Enfin, il y a 60 ans, oui, c'est vrai. Ouais. le détail...
60 ans pile.
60 ans pile, oui. Et vous savez que le poème ayant été écrit en 1875, nous avons toute l'année 2025, sans le savoir, célébré constamment les 150 ans de la chasse au snark
en particulier. Voilà. Oui. Donc là, vous réussissez à nous dire ce qui vous a tant travaillé dans ce texte. De quelle manière il vous a influencé? C'est-à-dire que est-ce que maintenant, a posteriori, vous pouvez voir en fait ce qui a guidé tout le long de votre œuvre, est-ce que c'est cette idée-là, un petit peu métaphilosophique d'ailleurs, de vous questionner sur le pourquoi d'une recherche philosophique, sur dans quelles conditions on fait de la philosophie?
Je pense que ça a toujours été, d'une certaine manière, la question du entre, la question des frontières qui m'intéresse.
C'est ça qui vous intéresse.
Alors bien sûr, tout cela... Tout ce que je vais vous dire est nécessairement rétrospectif. Je ne me suis pas dit dans ma vie, à partir de 16 ans, « Ah, je vais suivre le snark,
oui,
moi aussi. »
Je vais m'intéresser à la question
fou, mais pas à ce point. voilà. Et donc, c'est d'une manière rétrospective que je vois, effectivement, des effets de correspondance ou de résonance. Avec, justement, cette idée de savoir où... se tient le sérieux et le pas sérieux. Ça, c'est très difficile, parce que on se contente généralement d'inverser les termes, de dire « Ah, c'est ce que fait Pascal, par exemple. » Vous savez, ce fameux fragment sur les Aristote et Platon qui portent, on croit qu'ils avaient des grandes robes de pédants, mais dit Pascal, dans les pensées, pas du tout. En fait, ce qui les intéressait vraiment, c'est de vivre comme tout le monde, et puis de rire avec leurs amis. Et s'ils écrivent des traités de politique ou de philosophie, bon, c'est uniquement pour avoir l'air sérieux et pour s'adresser à des gens suffisamment fous pour croire que la politique existe ou que la philosophie importe. Mais ça, si vous dites ça, vous ne faites que renverser les termes. C'est-à-dire dire le sérieux, c'est la vie quotidienne et le rire, Alors qu'on ne croit pas. Et puis, le prétendu sérieux de la science, de la philosophie, du politique, etc., c'est finalement des folies et des fictions. Il me semble qu'il faut compliquer encore un peu plus le jeu et pas simplement se contenter de renverser. Il faut se demander qu'est-ce qui, dans le pas sérieux, le loufoque, l'inconvenant, le mot-valise, le calembour, qu'est-ce qui là-dedans interpelle la pensée? Qu'est-ce qui là-dedans fait avancer la réflexion? C'est pas juste pour rigoler. Si c'était ça, ce serait déjà pas mal, agréable. Ça. Mais il y a plus. Il y a plus, il y a, je pense, dans ce que l'on croit être non sérieux, et baroque, loufoque, insensé, etc., des effets de perturbation du sens qui interpellent, évidemment, et incitent à réfléchir sur la constitution du sens. C'est ce qu'a fait Deleuze, par exemple, dans Logique du sens, où il est beaucoup question...
De la chasse au snark.
De la chasse au snark, surtout d'Alice, au Pays des idées, et puis de Lewis Carroll en général, mais c'est les stoïciens...
Au Pays des merveilles. Il ne parle pas de votre livre.
Pardon.
Mais...
Deleuze parle pas de mon livre, mais alors bon, oui, bien évidemment, Alice au pays des merveilles et les stoïciens, c'est ça pour Deleuze dans Logique du sens, en 69 d'ailleurs, c'était quelques années après cette première lecture de La chasse au snark pour moi. Et ensuite, si vous voulez, je me suis, au cours de mes travaux et de ma vie, intéressé ou bien à des choses qui, finalement, n'étaient pas universitairement correctes. La découverte du bouddhisme au XIXe siècle, par exemple, par les philosophes européens, c'était pas un sujet normal, si j'ose dire. Ça a été ça, mon premier travail de thèse et puis ensuite de chercheur au CNRS. Mais... ce que je veux dire, c'est que c'est probablement de Michel Foucault que j'avais retenu cela. Ce qui fait l'intérêt de l'histoire, ce qui fait l'intérêt des enquêtes, comme celle que Foucault menait, comme celle dans mon petit coin que j'ai essayé de mener, c'est finalement la loufoquerie de ce qu'on découvre. C'est finalement l'étrangeté exotique, absurde parfois. Pour vous prendre un exemple, je sais pas. La découverte du bouddhisme au XIXe siècle, il y a des textes, alors il y a des textes sur le bouddhisme de Hegel, de Nietzsche, de Schopenhauer, évidemment, dans les Français, de Renouvier, de Taine, de Quinet, etc. Enfin, bon, il y a un bon corpus. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Rien sur le bouddhisme et beaucoup de choses sur l'Europe. Vous voyez, beaucoup de choses sur la naissance du nihilisme, parce que le grand fantasme, qui va des années 1830 aux années 1880, à peu près. Configuration discursive, aurait dit Foucault, vous voyez, une chose qui se met en place et qui ensuite disparaît. Eh bien, c'est l'idée que le bouddhisme consiste en, disait Burnouf, un des spécialistes, un anéantissement du principe pensant. Et ça paraît pour l'Europe ou chrétienne, ou sortant du christianisme, quelque chose d'absolument incompréhensible. Ces gens-là ne veulent pas être des penseurs, ces gens-là ne veulent pas être des sujets, ce qui est évidemment...
Loufoque, c'est ça ?
Voilà, loufoque est tellement extérieur, est tellement extérieur que ça déconcerte. Outre le fait qu'on pourrait se dire qu'après tout, puisqu'il s'agit beaucoup dans le bouddhisme de discontinuité... et de disparition, en tout cas, des égaux et des sujets illusoires, c'est une affaire de Bujum où on disparaît aussi.
C'est ça, exactement. Une question, avant d'entendre le début de La chasse au snark de Lewis Carroll que vous avez choisi, Roger Paul Droit. Lewis Carroll, on en a parlé, il continue à être lu, beaucoup lu. Il y a néanmoins aussi des discussions autour de qui il était. Il a d'ailleurs été congédié, en fait, par la famille de la petite Alice, les Lidl, notamment pour ses photos, pour sa relation avec elle. C'est un personnage, comme on dirait aujourd'hui, problématique. Comment, quand on a eu un tel compagnonnage avec un texte, on parvient à accepter d'une certaine manière que l'auteur soit ainsi.
Alors, je pourrais m'en sortir en vous disant, dans La Chasse au Snark, il n'y a pas de petite fille.
C'est ça.
Bon.
Vous n'avez pas choisi Alice.
Mais ce serait trop simple. Et quand, effectivement, là, il n'y a pas dans Alice au Pays des Merveilles, ni dans De l'autre côté du miroir.
Qui est la suite d'Alice.
Qui est la suite d'Alice, ni dans Sylvie et Bruno, qui est un son dernier texte, si je ne m'abuse. Il n'y a pas véritablement, si vous voulez, de scène qui évoquerait une sorte de pédophilie ou d'obsession pour les petites filles, etc. Mais indiscutablement, chez Lewis Carroll, ça a existé. Ça a existé. Je ne crois pas, pour autant que on le sache, Jean Gattegnaud, son biographe tout à fait admirable, c'est lui qui s'est occupé du cas Carroll ou de Dodgson, c'était son vrai nom. Je ne crois pas qu'il y ait eu de passage à l'acte, qu'il ait été, qu'il ait eu une sexualité pédophile à proprement parler, mais il a une obsession des petites filles, qui est une obsession quand même très organisée, des photos où elles sont demi-habillées, un peu en haillons, et puis il organise des thés d'enfants, tout ça, il y a quelque chose, effectivement, de bizarre, probablement de pathologique, dans cette obsession de Lewis Carroll. Alors, que notre époque, je le comprends très bien, soit révulsée par ce type de pratique, même s'il n'y a pas eu de, pour autant que je sache, si vous voulez, d'agression d'aucune sorte, il y a cette obsession-là. Et elle ne me paraît pas, si vous voulez, profondément associée à toute la loufoquerie et au jeu de langage et au jeu de logique de Lewis Carroll. Il n'y a pas que ça. Et alors, bon, on peut s'en tirer ensemble.
Oula, vous avez renversé votre verre.
J'ai renversé mon verre, voilà. On peut
va vous trouver un mouchoir pendant la diffusion du texte.
Oui, c'est pas, j'en ai là, voilà. On peut... évidemment, s'en offusquer, on peut s'en associer les deux et dire « je ne veux pas entendre parler d'un type comme ça ». Voilà, ça, c'est une possibilité. Moi, je crois raisonnable et possible, sans gêne, de dissocier les deux. Voilà.
L'endroit rêvé pour un snark,
cria l'homme à la cloche, qui débarquait l'équipage avec soin, soutenant chaque homme à la crête des vagues par un doigt pris dans ses cheveux.
L'endroit rêvé pour un snark, ça fait deux fois que je le dis. C'en serait assez pour encourager l'équipage. L'endroit rêvé pour un snark, ça fait trois fois que je le dis. Ce que je vous dis trois fois est vrai.
L'équipage était au complet. Il comprenait un bottier, un faiseur de bonnets et capuces, un avocat pour aplanir leurs différends, et un agent de change pour faire valoir leurs biens. Un champion de billard, dont l'habileté était immense. Il se peut bien qu'il ait gagné plus que son dû. Mais un banquier engagé à prix d'or avait la garde de tous leurs pécules. Il y avait aussi un castor qui arpentait le pont quand il ne faisait pas de la dentelle sur l'avant. Et qui les avait souvent, à en croire l'homme à la cloche, sauvés du désastre, bien qu'aucun des marins ne sût comment.
Voilà le début de La Chasse au Snark. Excusez-nous, Roger Paul Droit, ça n'est pas la traduction d'Henri Parisot, mais celle d'Aragon, car nous avons trouvé cette interprétation par Jean Topard et Roger Blin, qui date du 25 décembre 1966. Alors, je le rappelle, La Chasse au Snark, ça a été publié en 1875. Il a été rédigé en 1874. C'est un long poème en 8 ans qui sont appelés des crises. Alors ça, déjà, c'est une première chose. Et voilà le début, on l'a entendu, voilà, le bon coin pour le snark. Ça, c'est la traduction d'Henri Parisot que moi, j'ai sous les yeux et que vous avez choisi. Pourquoi avoir choisi ce début, Roger Paul Droit? Est-ce que vous n'êtes plus mouillé?
Non, tout va bien, voilà, je suis au sec. Vous voyez que on est entré dans une navigation.
Oui, ça y est,
il y a des incidents.
Mouillé, là,
il y a des incidents.
On confond un gouvernail et un beaupré, comme il est dit dans la préface de ce texte dont a parlé Aragon.
Et puis, et c'est la préface de Lewis Carroll à son propre texte, oui, où il dit, voilà, ce qu'on va me reprocher, c'est d'avoir écrit chapitre 4 ou 5, on confondait gouvernail et beaupré, on me dira, c'est pas possible, voilà. Et c'est, même quand il en parle lui-même, Lewis Carroll décale l'accent que l'on peut porter sur le texte, vous voyez, il ne parle pas du texte en général, mais d'un détail. Et qu'explique Jean Gattegno, qui a retrouvé cela dans la correspondance,
donc il est le biographe de Lewis Carroll.
Il explique que dans sa correspondance, Lewis Carroll écrit, il a eu le premier vers en tête au cours d'une promenade en marchant. Et comme j'ai fait aussi deux livres sur la marche, comment marchent les philosophes.
Il y a quelque chose de très carolien de ce point de vue-là,
voilà,
de la marche.
« Je marchais seul, dit Lewis Carroll, par une belle journée d'été sur un coteau, lorsque surgit en moi un vers unique, isolé, car le Snark était un boujoum, voyez-vous. » Voilà, et c'est né, selon Lewis Carroll, s'il n'a pas inventé rétrospectivement la naissance de ce texte, c'est né du fait que, se promenant, il se dit « car ce Snark était un boujoum, voyez-vous. » C'est le dernier vers.
Que l'on entendra tout à l'heure.
Voilà. Et ce dernier vers est donc finalement le premier venu, si j'ose dire.
Ce qui est fou, déjà, dans la rédaction.
Personne, à ma connaissance, en tout cas, ça ne m'a jamais arrivé, ne se promène en se disant « car ce Snark, voyez-vous, était un boujoum, quoi. » Ce n'est pas un truc qu'on se dit.
Alors déjà, il y a ça, mais est-ce que vous, ça vous est arrivé, par exemple, de commencer un texte par la fin ?
Oui, absolument.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est le plus rassurant, vous savez déjà où vous allez.
Oui, c'est comme si la quête était déjà finie, d'une certaine manière,
mais
déjà achevée.
La plupart du temps, je n'écris pas mes livres dans l'ordre, ou ensuite, et puis je les remets en place. Ça, c'est... Voilà, chacun ses manières de faire. Mais
c'est-à-dire que quand vous écrivez un livre, juste Roger Paul-Droit, une question, vous savez déjà où vous voulez aller ? C'est-à-dire que la quête dont vous parlez, ou même ce que vous avez développé sur l'idée quand même de sens de la philosophie, où on se lance dans une enquête avec une forme d'intuition, où on se dit « il y a quelque chose », comme un snark, et qui serait à la fois loufoque, mais qui nous permettrait quand même de perturber le sens ordinaire qu'on a des choses ». Vous l'avez presque déjà élucidé ?
Non, pas vraiment. Cette fin que je peux rédiger au début, elle sera ensuite, évidemment, tout à fait modifiée. Elle sera éventuellement jetée à la poubelle ou remplacée par une autre. C'est parce que je crois qu'il faut avoir les deux ensemble. Un objectif où on sait quand même un peu ce à quoi on veut aboutir, est-ce qu'on va dire, qu'on pose. Et puis, lorsque on commence à entrer en chasse, en navigation, en écriture, quelque chose qui, bien évidemment, découvre à mesure des aspects nouveaux. Mmh. Évidemment, on apprend à mesure qu'on écrit, on pense différemment en cours de route de ce qu'était le début. Mais peut-être, pour se rassurer, il faut commencer par dire bon endroit pour le snark, vous voyez.
Le bon coin pour le snark.
Même si on ne sait pas exactement.
On voit qu'on est au bon endroit, c'est ça, il y a une forme d'intuition. Alors là, on est au début donc de la chasse au snark, c'est la première crise qui s'appelle le débarquement. Je le rappelle, il y en aura 8 de crises.
Si vous permettez, j'ajoute juste un point. Oui. En anglais, c'est agonie en 8 points, vous voyez.
Ah, c'est... Mais agonie, c'est un faux ami, non ?
C'est un faux ami. Alors, des fois, Parisot le traduit par délire, ce qui ne me paraît pas, pour une fois,
pas si bon.
Le meilleur. Voilà. Mais le terme anglais, c'est agonie. Et c'est à la fois un drame, une tragédie, une bataille, agone, etc., qui, se poursuit en huit épisodes.
Mais qui, paradoxalement, en fait, ne sont pas des crises.
Non, ce sont à chaque fois...
Le débarquement n'est pas du tout une crise. On a vraiment, comme une ouverture assez classique, un homme qui nous est présenté, l'homme à la cloche, que l'on comprend être un peu le meneur, en fait, le capitaine de cette... Équipage, on ne sait pas, ça n'est jamais dit, c'est vrai, vous avez raison, Roger Pollan, oui. Vous allez m'arrêter. Non. Mais on a quand même une présentation des personnages, il y en a 10 de membres, là on n'entend que 8, et ils sont donc là pour chasser le Snark. Ça c'est assez classique et c'est pas très crisique.
Non, ça commence à l'être dès le début, quand le Bellman, l'homme à la cloche justement, capitaine supposé de ce bateau, dit ce que je dis trois fois est absolument vrai.
Ça, c'est exceptionnel.
Et ça, c'est une définition, évidemment, si l'on veut, purement pragmatique, mais de la vérité, mais qui n'en est pas moins une définition fascinante. Ce que je dis trois fois est absolument vrai, comme si un nombre de répétitions limitées instaurait une relation rigoureuse entre un énoncé et ses objets. Voilà, là déjà, il y a quelque chose de tout à fait troublant là-dedans. Et la seconde chose qui est surgie assez vite, je crois, dès la première partie du poème, c'est que une des caractéristiques du capitaine, c'est d'avoir une carte de l'océan qui est entièrement blanche.
Qui est vierge.
Entièrement, puisqu'il s'est débarrassé de tous les contours, de toutes les... Si on représente l'océan sur la carte, il ne saurait y avoir évidemment de côtes, d'îles ou de quoi que ce soit d'autre. Et ça rassure et inquiète en même temps, parce que c'est ça le trouble, si vous voulez, les crises successives. Vous avez raison que ce ne sont pas nécessairement des paroxysmes, mais ce sont à chaque fois... dans l'avancée de ce poème, des troubles entre le langage et le réel, entre le sens et le non-sens. Et c'est pour ça que c'est un poème ou un texte qui se situe entre. Si c'était du pur non-sens, d'abord, on n'en aurait rien à dire. Vous ne pourriez pas le lire. Vous auriez un amas de caractère typographique, vous n'auriez même pas de mots. Le pur non-sens, ce serait de l'indicible et de l'in... Et là, vous avez un trouble du sens. Avec une carte qui existe, mais qui est sans bord, avec une définition du vrai qui est juste, je le répète trois fois, avec un objet que l'on cherche, le Snark, mais dont on ne sait pas au juste, et quand on va avoir les caractéristiques, on verra qu'elles sont toutes les plus désaxées les unes que les autres, et qu'elles ne font pas la description de quelque chose d'identifiable véritablement. Voilà, et c'est ça.
C'est un trouble, mais en même temps, quand on lit ce texte, Roger Pollan, et notamment là, ce début, quand il dit « ce que je dis trois fois est absolument vrai », ça nous perturbe, et en même temps, on y ressent une forme de justesse. On est assez d'accord, c'est-à-dire que au début, je l'ai lu, je me suis dit « c'est une aberration, c'est pas parce que je dis trois fois que le soleil est bleu qu'il va devenir bleu ». Malgré tout, en le disant trois fois, je me dis « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas ? C'est-à-dire que Lewis Carroll s'est parfaitement touché quand même à ce point. Même, par exemple, la carte qui est vierge, vous en avez parlé. L'équipage est ébahi, se dit « enfin une carte sans route, sans île, sans rien !» Et moi, qui regardais ma carte cet été pour me diriger sur les routes, mais j'aurais voulu qu'il n'y ait plus rien, en fait. Il y a quelque chose qui touche très juste sur l'abolition de ces repères et une autre manière de définir la vérité.
Mais ce qui touche juste en, finalement, en incitant et en désorientant à la fois, c'est ça qui est l'étrangeté du dispositif, c'est finalement ça touche à quoi ? Ça touche au fait que nous sommes à la fois profondément rationnels et profondément non rationnels, que nous sommes désireux d'avoir, je ne sais pas, des vérités absolue qui s'obtiendrait juste par la réitération, la répétition, la psalmodie, le mantra, n'importe quel mantra, c'est ça. C'est que, à force de le répéter, il paraît vrai ou il est institué ou instauré comme vrai. De la même manière, on peut rêver d'avoir des cartes blanches, si j'ose dire, pas seulement au sens de la...
Mais plus qu'une distinction en nous, Roger Pollan, entre l'irrationnel et le rationnel, on en vient à se dire, mais est-ce que le rationnel n'est pas qu'une pure fabrication. C'est-à-dire que de la même manière que le snark, parce que le snark, ça peut être un élément symbolique, ça peut être la poursuite du bonheur. Lewis Carroll, à un moment donné, l'a suggéré un an avant de mourir dans ses carnets. Ça peut être la mort, mais on pourrait dire aussi très littéralement, c'est aussi cette création à tout prix de sens, de conventions arbitraires, comme le langage, alors qu'en fait, comme la raison, en fait, une méthode de la raison, je pense à Descartes, qui en fait ne serait fondée sur rien. Et c'est pour ça que ça touche juste aussi, c'est parce qu'on se demande toujours quand même pourquoi c'est ainsi et pas autrement.
Oui, mais vous savez, à peu près à la même époque, Nietzsche écrit, ça doit être dans Vérité au sens extra-moral, que nous avons de la vérité, nous avons nos vérités sont comme des pièces de monnaie dont on aurait oublié que ce sont des mensonges, qu'elles n'ont plus cours, que ce sont des conventions, et qu'on prendrait pour des vraies choses. Or, si vous voulez, c'est un peu le même trouble qui agite ou qui travaille la chasse aux snarks, c'est-à-dire que ces dénominations de snark, de boujoum, positives ou terrifiantes, on ne sait pas nous-mêmes si ce sont de purs être linguistique, juste des mots et rien d'autre, ou si on les fait correspondre à des impressions que nous sentons, des affects qui nous voilà, on voudrait que ça soit quelque chose et on ne décide pas absolument que ça n'est rien du tout, qu'il suffirait de passer outre et de hausser les épaules, parce que nous tenons finalement à ce que nos conventions aient aussi des fondements, correspondent à des réalités absolues. Voilà, c'est le problème même de la foi religieuse, si vous voulez. Après tout, les trois fois, ça peut être le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
C'est vrai, hein, c'est vrai.
Et ça devient absolument vrai par une magie, non pas seulement de la répétition mécanique, mais de l'adhésion à une réalité que supposée, mais en même temps crue comme exacte, alors que personne ne la rencontre.
On va écouter, on va sauter les sept crises pour arriver à cette dernière huitième crise où est énoncée cette fameuse, alors on n'entend pas la fameuse dernière phrase, mais on y va, par laquelle avait commencé Lewis Carroll ce texte.
Il le traquait, armé d'espoir, de dés à coudre, de fourchettes, de soins. Il tentait de l'oxyre avec une action de chemin de fer, ou de le charmer avec du savon et des sourires. Il tremblait à l'idée de revenir bredouille, et Messire Castor, enfin intéressé, se mit à sautiller sur le bout de sa queue, car le couchant déjà était couleur de rouille. L'homme à la cloche dit
« C'est lui, machin chouette !» Comme un démon, il crie « Écoutez le don !» Il agite les mains, il balance la tête. Sans nul doute, il aura découvert quelques snarks.
Écarquillant les yeux, tandis que le boucher disait
« Ce fut toujours un sacré plaisantin !»
Ils le virent, joyeux, leur héros innommé, leur boulanger au fait d'un rocher voisin. Sublimement dressé, l'espace d'un instant. L'instant d'après, hélas, cette folle figure, comme en convulsion, s'abîmait dans un gouffre, tandis qu'ils écoutaient, anxieux, haletants.
C'est un snark !
Tel fut le son qui d'abord frappa leurs oreilles, semblant, pour être vrai, trop beau. Puis, ce fut un torrent de rire, de hourra ! Puis, de mauvais augure, les mots.
C'est un bout.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
En voilà une crise, Roger Paul Droit, la disparition. Effectivement, un des membres de l'équipage, le boulanger, disparaît. Alors nous ne sommes pas à la toute fin du texte. Là, le texte qu'on a entendu, lu par Nicolas Berger et Anaïs Isbert, se clôt ainsi. C'est un bout. Trois petits points dans le texte. Et quelle est la dernière phrase, la toute dernière phrase, Roger Paul Droit, vous nous l'avez dit tout à l'heure ?
La toute dernière phrase, c'est « car ce Snark, c'était un Boudjoum, figurez-vous ».
Donc le Boudjoum, c'est le double maléfique du Snark.
C'est ça, c'est ce qui fait que si, c'est cet être tout aussi mystérieux que le Snark, mais cette fois maléfique, qui fait que si c'est un Boudjoum que l'on rencontre, alors on disparaît. Et le boulanger disparaît en disant c'est un bout parce que il n'a pas le temps de finir le mot qu'il est déjà évanoui, anéanti, annihilé.
S'abîmer dans un gouffre, cette fois-ci c'est la traduction d'Henri Parisot, celle que vous aimez, Roger Palois, il dit voilà, s'abîmer dans un gouffre, l'instant d'après, hélas, comme en convulsion, cette folle figure s'abîmer dans un gouffre. Il y a quelque chose du mais comme du bout enfantin, c'est-à-dire bout d'un coup, et puis on se cache.
On n'en saura pas plus, heureusement ou malheureusement, mais c'est cette idée qu'il y a... alors, ça, on peut imaginer que c'est la mort, on peut imaginer que c'est le néant, on peut imaginer que c'est le terme de la limite ultime de nos capacités de parler ou de penser, de concevoir et de philosopher. Mais il y a en tout cas quelque chose que l'on risque de rencontrer, dans quoi on va s'anéantir ou qui fera qu'on va disparaître. Alors c'est en quelque sorte de l'anti-langage, j'ai envie de dire, comme il y a de l'antimatière, vous voyez.
Ah, expliquez-moi. Bah,
ce serait comme ça que je...
Moi j'aime bien tout ce qui est anti.
Bon, eh bien, vous savez que les trous noirs, ou l'antimatière, c'est ce qui fait disparaître ce qui existe. Là, ce serait une image de l'anéantissement, de l'annihilation, transposée à la fois dans le physique, si on veut, mais essentiellement dans le langage. Rencontrer un Boudjoum, c'est même ne plus pouvoir prononcer entièrement son nom, puisque dès qu'on dit bou, on est anéanti par l'anti-langage qu'est le...
Mais c'est l'anéantissement du langage dont on parlait, et presque la mise à nu de son côté conventionnel, arbitraire, qui ne repose sur rien. C'est-à-dire, on a décidé qu'un studio s'appelait un studio, mais ça aurait pu être une pomme.
Ah oui, mais c'est pas seulement... Alors, je veux pas revenir avec des logiciens bouddhistes chez Lewis Carroll de façon trop brutale, mais un des liens qui peut y avoir, c'est que vous connaissez la phrase de Saussure qui dit « dans la langue, il n'y a que des différences ». C'est-à-dire que dans les phonèmes, les sons que nous prononçons, « bou » n'a pas de sens en soi, ni « be », ni « ou », et c'est parce que nous sommes dans des jeux où B se différencie de D, de T, etc. Il n'y a que des différences au sens où aucun son de la langue n'a de sens par soi, par lui-même. C'est Jacobson, Trubetskoy et tout ça qui ont bien montré toutes ces questions de linguistique. Mais ce que font des logiciens bouddhistes, comme Dignaga par exemple, c'est d'étendre ce jeu de différences au-delà des mots, aux idées elles-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a rien, en fait, qui est une substance, qui est une consistance, qui est une réalité même conceptuelle. Il n'y a que des jeux de différence dans les idées aussi. Vous croyez qu'une vache existe, alors que elle se différencie, la vache, du taureau, d'autres bovins, du buffle, etc. Et le buffle, il n'existe pas, il existe par différence avec la vache et les autres bovins, vous voyez. Et les bovins eux-mêmes n'existent que par différence avec les ovins, les serpents. Et cette idée que finalement, il n'y a que des différences et pas d'être... c'est une idée vertigineuse, évidemment, du point de vue de l'ontologie et de la métaphysique. Mais...
Et psychique, et psychologique.
Et psychologique aussi. Et alors ça aboutit, je vais faire court et arrêter là-dessus, mais ça aboutit, par exemple, chez un auteur comme Dignaga, à des énoncés aussi étranges que celui-ci, je cite de mémoire, « Il n'y a ni vache, ni non-vache, c'est pourquoi on parle de vache ». Et le « c'est pourquoi on parle de vache », ça c'est un truc vachement difficile, si j'ose dire, à entendre, parce que ça veut dire « il n'y a que des différences ». Ce jeu de différences, c'est ce que les bouddhistes appellent la vacuité, c'est-à-dire c'est pas le néant, c'est un rien en quelque sorte dégagé par la mise à l'écart de tous les opposés. Il n'y a que des opposés, on met tout à l'écart, on a du vide. Mais le « c'est pourquoi on parle de vache », c'est que si la vérité ultime est vide, et après tout, elle l'est d'une certaine manière dans la chasse au snark, il n'y a rien que de la disparition. S'il en est ainsi, il n'en reste pas moins qu'il faut se repérer. Voilà, on va pas.
Il faut bien continuer à vivre.
Et il faut dire qu'est-ce que tu fais ? Je vais traire la vache et pas je vais traire l'arbre ou je ne sais pas ce que je vais traire.
Il faut bien vivre et il faut bien vivre ensemble.
Voilà.
Aussi.
Et pour le vivre ensemble, pour se repérer, s'orienter, s'informer, communiquer dans ce monde vide, eh bien, il faut utiliser des fictions communes qui sont les mots.
Donc, nous vivons uniquement dans des fictions. C'est ça, Roger Paul Droit ?
Il faut distinguer, et ils le font très bien, mes petits amis logiciens bouddhistes, entre ce qu'ils appellent vérité ultime, qui est vide, et puis celle où nous vivons, qui, même si l'ultime est vide, nécessite toutes sortes de repères. Vous savez, comme c'est David Hume.
David Hume, justement, on voit le soleil se lever tous les matins,
oui.
Donc c'est vrai que le soleil va se lever demain.
Non, c'est une croyance. C'est une croyance de notre
mais
raison.
Mais ça peut être le fondement d'une connaissance, selon lui.
Chez Hume, c'est pas tout à fait sûr, mais il a cette... l'une des phrases de lui que je préfère, c'est « Même ceux qui doutent de la réalité du monde extérieur sortent de la salle par l'escalier ». Vous voyez,
oui.
Personne ne sort par la fenêtre juste parce qu'il y a des doutes sur la réalité du monde sensible. Bon, et voilà, nous avons bien évidemment toute une série de routines mentales, perceptives, neuronales, comportementales, etc., qui nous permettent non seulement de vivre ensemble et de communiquer, mais aussi de nous orienter dans l'espace, de nous repérer dans le temps et autres.
J'aimerais vous faire entendre la voix de quelqu'un dont vous nous avez parlé au tout début de l'émission.
Il y avait une ambiguïté qui tournait à peu près autour de l'équivoque suivante, ou bien on oubliait purement et simplement la réalité de la linguistique dans la pratique de l'analyse de contenu, ce qui revenait à opérer une sorte de démographie sur les mots, à traiter les mots comme une population dans laquelle on repère un certain nombre d'occurrences. Je pense par exemple à des travaux sur l'apparition du mot « Dieu » dans les œuvres des philosophes. Ou bien, au contraire, un type d'analyse qui fait référence à la linguistique, mais qui est amené à transporter ces concepts linguistiques dans un nouveau domaine qui serait en gros celui de la théorie sémantique, sans avoir contrôlé en quoi ces concepts peuvent être appliqués, peuvent être transportés sans modification. Et ce qui m'est apparu progressivement, c'est la nécessité de poser la distinction radicale entre langue et discours pour pouvoir construire une théorie du discours et, en conséquence, une méthode d'analyse du discours.
Archives du 23 janvier 1970, les sciences et les techniques sur France Culture, c'était la voix de Michel Pécheux, votre professeur Roger Paul Droit, qui vous a fait découvrir la chasse au snark. On entend dans cette archive, qui est compliquée, hein, la distinction entre langue et discours. On voit bien, à travers ce que vous venez de dire, avec ce choix de la chasse au snark, avec le fait que ce professeur vous a fait découvrir ça, mais aussi on pourrait parler de Gilles Deleuze, logique du sens, qui différencie l'absurde et le non-sens. L'absurde comme ce qui est l'absence de sens et le non-sens comme ce qui, au contraire, va produire des excès de sens, comme quand on lit la chasse au snark, on essaye de trouver beaucoup de sens. Comment, en fait, la question de la convention, mais surtout du langage, en fait, est une chose aussi qui vous porte. C'est-à-dire, tout ce qu'on se dit, les fictions par lesquelles on avance dans la vie, c'est notamment celle du langage. Là, nous parlons, mais c'est une fiction.
C'est une fiction opératoire, heureusement, enfin, et qui ne nous est pas en permanence présenté ou présente à l'esprit comme fiction. Mais les deux coexistent. C'est-à-dire, en gros, pour le dire vite et simplement, nous sommes des animaux dénaturés par le langage. Voilà.
Pas structurés, mais dénaturés.
En tant qu'animaux, structurés en tant qu'humains.
Oui, voilà.
Voilà. Mais pagaillés, d'une certaine manière, par le langage.
Ah, c'est bien.
Voilà.
Nous sommes des êtres pagaillés par le langage.
Oui, pagaillés, travaillés, transformés, parce que tout animal qu'il soit, l'être humain en tant qu'être parlant est dans un autre monde. Mmh. Un monde qui est justement réglé par l'univers symbolique des jeux de différence de la langue, par les filtres des notions, des concepts, et par aussi le fait que, en raison du bain linguistique dans lequel on a été élevé, on n'aura pas nécessairement chacun, vietnamien ou francophone, ou bien, je ne sais pas, selon la langue où on a été élevé, on n'aura pas nécessairement les mêmes filtres, ni les mêmes appréhensions du monde. Donc, d'une certaine manière, pas exactement le même monde, bien que les traductions existent.
Vous, ça vous donne pas le vertige, ça, au J'ai pas le droit ?
Tout ce qui me donne le vertige, je l'aime.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
Cette chanson, Roger Paul Droit d'Ella Fitzgerald, que vous avez reconnue pour introduire cette séquence de fin d'émission. Après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, Lewis Carroll, La chasse au snark, place à un auteur qui vous résiste, que vous n'aimez pas, que vous n'arrivez pas à lire, ou au contraire, que vous parvenez très très bien à lire, mais vraiment, voilà, que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Un auteur que je ne parviens pas à lire, malgré des efforts répétés, vertueux et multiples.
Disciplinés.
C'est Proust. Proust, et je crois que cela, nous avons cela en commun.
Oui.
Et c'est vraiment pour moi un auteur que j'ai vertueusement essayé à chaque fois de lire et qui me tombe des mains totalement. C'est-à-dire que tout m'y est étranger. J'ai l'impression d'être dans un pays où je ne peux que très difficilement vivre, où je ne peux pas finalement rester d'une certaine manière, parce que l'écriture elle-même, admirable pour certains, mais pour moi affreusement pâteuse et pénible, la psychologie des personnages, la sensibilité, le cadre d'ensemble, leur centre d'intérêt, ce qui les meut ce qu'ils craignent, ce qu'ils désirent. Tout cela me paraît d'une autre planète, d'un artifice. Alors, je n'ai pas j'ai aucune fierté de ça, j'ai aucune résignation non plus.
En vantez pas.
Ah non, je suis pas fier. Je le regrette parce que à chaque fois, parce que j'ai lu depuis Deleuze jusque à Jean-Paul et Raphaël Enthoven sur Proust, voilà, je vois bien que c'est d'une certaine manière moi qui rate mille choses qui semblent intéressantes. Et voilà, je le vis non pas comme une infirmité dont je serais coupable, mais comme d'une certaine manière un regret. Vous savez, à chaque fois que on perd un plaisir dans le monde ou que l'on est indifférent à quelque chose qui pourrait être beau, plaisant, instructif et jouissif, bah, on peut le regretter. Je le regrette, mais c'est comme ça. Et je pense, si vous voulez, que finalement, il y a probablement... C'est des affaires, j'ai pas la clé de cela, mais c'est des affaires de famille d'esprit. De famille d'esprit. Après tout, entre la chasse au Snark et Proust, il y a quelque chose qui... Il n'y a pas d'intersection, d'une certaine façon.
C'est une question d'affinité.
Oui, c'est ça, d'affinité. Parce que, sans doute que je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'humour chez Proust.
Mais Laure Murat, grande spécialiste venue parler de Proust, m'a donné un très bon conseil qui est de ne pas commencer par le début et a choisi des textes durant l'émission qui la faisaient hurler de rire. Je pense qu'il y a de l'humour dans Proust. Moi, je m'y suis mise grâce à elle. J'ai pas fini, ça, j'y suis depuis un an quand même, donc c'est quand même laborieux. Peut-être devez-vous commencer par « Allons des jeunes filles en fleurs » ou « J'imagine que vous avez déjà tenté ». Mais c'est vrai, je vois ce que vous voulez dire, il y a quelque chose qui ne relève pas de la volonté.
Oui.
Où effectivement, moi, à certains moments de ma lecture, je peux me dire, c'est comme quelqu'un qui voit les gens fumer, il dit « c'est un plaisir immense, mais il n'aime pas l'odeur ». Vous voyez ?
Je vois bien, oui, c'est assez justement décrit, c'est-à-dire quelque chose, oui, qui n'est pas de l'ordre de la décision personnelle. On peut décider de se dire « Ah, je vais m'y mettre, je vais essayer de chercher ce qui, etc. » Et puis, bon, on essaye, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et alors, je suppose quand même que c'est aussi lié, à des... J'appelle ça famille d'esprit, tempérament, etc. Mais ça joue dans les textes. Par exemple, j'ai une grande sympathie, vénération, affection pour Tristram Shandy de Laurent Stern, qui est un roman extraordinaire de... Mais là, lui aussi, de loufoquerie, il a inventé finalement une partie de l'écriture moderne. Vous savez, il y a un chapitre qui manque dans le livre, et il dit « Je suis désolé, je ne l'ai pas retrouvé, j'ai cherché partout, j'ai perdu ce fichu chapitre. »
Et ça, Proust n'aurait pas pu l'écrire.
Je ne vois pas. Je ne vois pas non plus Proust dire, comme le fait Laurent Stern dans Tristram Shandy, « Vous êtes dans ce chapitre depuis un quart d'heure, bon, moi, ça fait quand même 4 jours. » Bon, voilà.
Merci beaucoup, Roger Folledroit. De vous, on peut lire Alice au pays des idées, paru chez Albin Michel. Sans une expérience de philosophie quotidienne qui ne sont pas sans rapport avec la chasse au snark chez Odile Jacob. Et puis, vous l'avez évoqué, le culte du néant, les philosophes et le Bouddha, disponible au Seuil et maintenant en point. Pour lire la chasse au snark de Lewis Carroll, c'est disponible aux éditions Flammarion dans un recueil intitulé Tout Alice, traduit par Henri Parisot. Mais je signale aussi les éditions Segers dans la traduction d'Aragon. Et un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation, à Mineta Jawara à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.